Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Père, chers frères, bien chers fidèles, chers confirmants qui allez recevoir le Saint-Esprit par le sacrement de confirmation, de même que les apôtres et les disciples le reçurent le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur. Notre Seigneur leur avait dit qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il allait bientôt leur envoyer le Saint-Esprit d'auprès du Père. Ce qu'il fit 10 jours après son ascension au ciel. Ils étaient réunis au Cénacle en présence de la très sainte Vierge Marie, lorsque soudain vint du ciel un grand bruit, comme un vent violent qui remplit toute la maison. Et ils virent des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues de tous les pays. Car il y avait à Jérusalem, pour les fêtes de la Pâque juive, des milliers d'hommes pieux de toutes les nations et parlant chacun la langue de son pays. Ils furent très étonnés d'entendre ces Galiléens s'exprimer dans la langue de chacune de leurs nations. Les entendant annoncer chacun dans sa langue les merveilles de Dieu. Alors Pierre, transformé par le Saint-Esprit, commença à prêcher, leur rappelant les paroles du prophète Joël. Oui, dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs, et ils prophétiseront. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette prédication de Pierre eut pour résultat la conversion de 3000 hommes, qui furent les premiers chrétiens de l'Église de Jérusalem. Les apôtres furent donc transformés par le Saint-Esprit. En effet, malgré 3 ans d'enseignement de notre Seigneur et avoir assisté à tant de miracles, dont le dernier fut la résurrection de Lazare, eh bien, malgré tout, ils avaient abandonné leur Seigneur et leur foi au moment de l'arrestation à Gethsémani. Et l'apôtre Thomas, après la résurrection, dut même mettre ses doigts dans l'emplacement des clous qui traversèrent les mains du Sauveur. Eh bien, voilà donc les apôtres transformés, pleins du Saint-Esprit et du courage qui leur fera signer de leur propre sang le témoignage de la vérité, de la résurrection, et convertir des dizaines de milliers de chrétiens, malgré les menaces de mort et de torture. Chers confirmants, votre baptême avait fait de vous des enfants de Dieu et de l'Église. C'était votre naissance à la vie spirituelle. Les années ont passé et maintenant, vous avez besoin de confirmer la grâce reçue lors du baptême pour garder la vie chrétienne, pour la défendre contre les ennemis de la foi, qui disposent aujourd'hui de tant de moyens pour la détruire. Pour essayer de perdre nos âmes, tous les moyens sont bons. L'école, la télévision, le cinéma, les téléphones et autres écrans, et les lois de la République. Il y a de l'indécence et du scandale, des occasions de chute partout. Le diable, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps avant que le bon Dieu n'intervienne pour sauver ce qui reste de son Église, est déchaîné. l'avortement dans la Constitution, le suicide organisé par l'hôpital et le gouvernement, tous les vices protégés par la loi, et à Rome, pendant ce temps-là, un document officiel parle de la dignité infinie de l'homme. C'est ainsi que dans la nouvelle religion moderne, conciliaire, l'homme prend la place de Dieu. Il devient comme Dieu, égal à Dieu. C'était déjà ce que proposait le diable à Adam et Ève, en disant « Mais non, Dieu ne vous laissera pas mourir, mais Dieu sait bien que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre interdit, de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, et connaissant le bien et le mal, vous serez comme Dieu. » Aujourd'hui, les lois de l'homme et du citoyen appellent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien, traitant les catholiques qui résistent d'intégristes, attardés du Moyen Âge, etc. Seul Dieu possède une dignité infinie. Quant à l'homme, il doit dire ce que nous disons avant la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. » Au commencement, le diable proposait déjà aux hommes l'égalité avec Dieu. Mais le diable ne se doutait pas que justement, Dieu voulait précisément cela, donner aux hommes sa propre vie divine, non au moyen d'une révolte, mais au moyen de l'obéissance à son commandement, de l'obéissance à la vérité. Lors de cette première rencontre du diable avec l'homme, nous voyons ce signe caractéristique de toute révolte contre Dieu, cette contradiction diabolique de l'ingratitude qui consiste à profiter d'un don de Dieu pour offenser Dieu avec ce même don. Par exemple, utiliser sa propre intelligence pour nier Dieu au nom de la raison. Et aussi, l'incroyable et stupide folie de prétendre que nous sommes quelque chose face à Dieu, lui qui nous a fait sortir du néant. Tel fut le péché des anges rebelles. Le prophète Isaïe s'adresse ainsi au diable, « Comment es-tu tombé du ciel, toi qui avais dit, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Et comme le dit saint Paul aux Thessaloniciens, au cours de l'époque de la grande apostasie, de l'apostasie universelle, l'homme de péché, l'antéchrist, viendra avec le pouvoir du diable et mettra son trône pour s'y asseoir dans l'Église de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Pauvres hommes qui ont voulu être comme Dieu et qui ont fini comme de pauvres diables. C'est aussi l'histoire de la tour de Babylone, la tour de Babel, qui prétendait s'élever jusqu'au ciel et dont la malédiction et la division provoquèrent toutes les guerres en attendant la prochaine. Au contraire, le royaume de Dieu est ouvert aux hommes qui sont humbles. « Apprenez de moi, disait notre Seigneur, que je suis humble et doux. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » Les mystères du royaume des cieux resteront toujours incompréhensibles. Ils n'apportent pas la démonstration d'une vérité, mais ils apportent la connaissance d'une vérité. Par exemple, le secret de la vie intime de Dieu, dont Dieu veut nous faire participer dès ici-bas et jusque dans l'éternité. En Dieu, il existe donc trois personnes qui se connaissent, qui s'aiment mutuellement et qui vivent dans une union absolue, totale. Trois personnes en un seul Dieu. Autrefois, dans les églises, la Trinité était représentée par le symbole du triangle, qui renferme trois angles égaux, que la franc-maçonnerie a adopté pour tromper les chrétiens. Et nous voyons, dès le début de l'Évangile, un ange apprendre à Saint Joseph que la très sainte Vierge Marie enfantera un fils, né du Saint-Esprit, fils de Dieu le Père, à qui on donnera le nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu lui-même avec nous, parmi nous. Avant de monter au ciel, notre Seigneur annonce à ses apôtres que son Père leur enverra le Saint-Esprit pour les consoler et leur rappeler tout ce que notre Seigneur leur a appris. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont trois dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit-Saint. Et ces trois ne sont qu'un. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui procède du Père et reçoit de ce qui est au Fils. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils conjointement. Le Saint-Esprit est Dieu comme le Père est Dieu et le Fils est Dieu, procédant de l'un et de l'autre, et exprimant la relation d'amour infini qui unit le Père et le Fils. Le Saint-Esprit nous est donné et dépose en nous l'amour de Dieu, et donc la vie même de Dieu dans nos cœurs. Dans la Sainte Trinité, chaque personne a son rôle vis-à-vis de nous. Le Fils est envoyé sur terre pour nous racheter. Et nous dit notre Seigneur, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous enseignera toutes choses. Les personnes divines sont envoyées sur terre pour nous sanctifier, c'est-à-dire pour nous unir à Dieu, pour habiter en nous. Le Dieu aimé dans le cœur humain qui aime Dieu. Le Saint-Esprit a pour mission de nous faire connaître et aimer Dieu, de nous communiquer la vie de Dieu, de telle sorte que, comme dit saint Paul, « ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi ». Lors de l'arrestation par les Juifs de notre Seigneur à Gethsémani, les apôtres l'abandonnèrent et s'enfuirent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils le recevront 50 jours plus tard lors de la Pentecôte. Après quoi, grâce au Saint-Esprit, ils accepteront la mort et les tortures en témoignage de la vérité et de la résurrection de notre Seigneur. Vous aussi, chers confirmants, avec le sacrement de confirmation, vous allez être transformés en soldats du Christ, en soldats de la vérité et de la sainteté, en recevant le Saint-Esprit. Car nous sommes au milieu d'une guerre, d'une grande guerre, contre le démon et tous ses représentants sur terre. C'est le rôle des prêtres de vous avoir bien préparé, de vous avoir bien disposé votre cœur, votre âme, à recevoir la grâce du sacrement de confirmation, pour que vous puissiez réellement progresser dans la connaissance et l'amour de Dieu, dans la sainteté. ces bonnes dispositions, c'est d'abord la foi. Bien étudier la grandeur des sacrements qui nous communiquent, qui nous donnent vraiment la vie divine, sacrements qui nous unissent vraiment à Dieu, pour nous déifier. C'est pourquoi notre Seigneur répète ce que Dieu lui-même nous disait dans l'Ancien Testament aux hommes fidèles. J'ai dit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu, des enfants de Dieu, en nous donnant la foi et la grâce sanctifiante. C'est la grâce qui transforme nos âmes, qui les déifie. Autre disposition nécessaire pour faire fructifier la grâce des sacrements, l'humilité. Devant cette descente de Dieu en notre âme, en notre cœur, humilité, révérence, adoration, effacement de notre propre personne. Devant Dieu qui vient en nous, si nos cœurs sont remplis des choses de ce monde, alors comment Dieu pourra-t-il y habiter? Il faut nous détacher des biens de ce monde pour pouvoir nous attacher à Dieu. Alors les sacrements produiront en nous la charité, l'amour de Dieu, et le Saint-Esprit remplira nos âmes. Nous devons prendre conscience des grandes grâces que nous recevons par les sacrements. Les fidèles ont besoin du Saint-Esprit. Si la nouvelle religion ne leur donne pas, alors ils iront le chercher dans le charismatisme ou les sectes, où ils n'en trouveront que l'illusion procurée par les mauvais esprits. Le cinquième, dont vous allez recevoir l'onction, les saintes huiles consacrées le jeudi saint, nous communiquent donc l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit de charité, l'Esprit de foi. Prenons donc la résolution de raviver notre foi dans ces moyens, dans ces sacrements, dans ce trésor que notre Seigneur nous a confié. Et demandons à la très sainte Vierge Marie, Mère de toutes les grâces, de mieux comprendre la grandeur de ces sacrements que notre Seigneur a institués afin de nous sanctifier, de nous unir à Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.